Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Dimanche 28 avril sur les ondes de SBS Audio. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes ensemble pendant une heure. Je m'appelle Marianne Murat. Je suis là pour vous présenter votre programme en français. Il est 13h. Et bien sûr, comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué l'actualité de cette semaine. Personnage de la semaine et aujourd'hui, Valentine Saboureau nous parle d'un jeune homme qui s'est fait un nom face à la force du mollet. C'est Tadej Pogačar, un grand cycliste du moment, un Slovène redoutable qui associe puissance et intelligence de course. Bonjour Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Les amateurs de cyclisme le connaissent bien. Tadej Pogačar, Slovène de 25 ans seulement, vient de remporter une nouvelle course, à savoir Liège-Bastogne-Liège. C'est une victoire éclatante qui complète un palmarès déjà bien fourni et sa deuxième sur la doyenne des classiques qu'il avait déjà gagnée en 2021. Dimanche 21 avril, il a grillé la politesse au Français Romain Bardet qui est arrivé 1 minute 39 après et au Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui a franchi la ligne 2,02 minutes plus tard.
Yeah, the team did super job. Domen Novak bring me in La Redoute. He did the first few hundred meters super hard sprinting, and then I just I had to go. And I know this climb super well. I did it many times now already, and I knew what I have to do, and I try to just go full gas to the top, down, and full gas to the finish.
Sensation du cyclisme, hein, Valentine. Tadej Pogačar, il a pourtant commencé par le football.
Oui, tout à fait. Né le 21 septembre 1998 à Klanec, en Slovénie, il commence en effet par taper le ballon avant de s'essayer au vélo, inspiré par son frère aîné. À 8 ans, le voilà inscrit au Roj Ljubljana Cycling Club, où il se fait les mollets. Il enchaîne rapidement les victoires en junior. En 2016, il remporte le Giro della Lunigiana et devient champion de Slovénie du contre-la-montre en 2019, titre qu'il gagne de nouveau en 2020 et en 2023. En 2019, il rejoint l'équipe UAE Emirates et il commence sa carrière de vénéo. En Australie, c'était la 21e édition du Tour Down Under. Il finit 13e et je vous rappelle qu'à l'époque, c'est le Sud-Africain Daryl Impey qui avait gagné. Depuis, il a enchaîné les victoires Tour de Lombardie en 2021, 2022 et 2023, Tour des Flandres en 2023 et deux Tours de France quand même en 2020 et 2021.
Alors, de tels succès nourrissent bien évidemment des soupçons de dopage.
Pas question de gâcher la fête, mais on se rappelle les scandales de Festina en 1998 et aussi les aveux du champion Lance Armstrong qui ont eu pour résultat l'annulation de toutes ses victoires en Tour de France. Le cyclisme est donc un sport qui, hélas, est associé au dopage et même à des soupçons de triche mécanique. Pour les néophytes, cela impliquerait donc que la monture soit améliorée, par exemple, avec un moteur électrique dissimulé quelque part. Alors aujourd'hui, la puissance de Pogačar dans les montées les plus longues et les plus raides, mais surtout la facilité avec laquelle il semble parfois les avaler, c'est ça qui pose question. Le sociologue Christophe Bustreau dans Le Monde en 2023, donc l'année dernière, disait « Le fait que les performances ont augmenté lors des dernières décennies se comprend par la diététique, de meilleurs entraînements, des vélos plus rapides et une récupération plus efficace. Reste que les énormes écarts entre les coureurs sur ce tour interpellent. » Sur ce point, il n'y a pas d'explication spécifique. pointant l'usage vraisemblable de la pharmacopée, l'expert résume « Il y a peut-être des gens qui ne se dopent pas, cela ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas de produits. » Alors de son côté, Pogacar réfute tout dopage, mais concède « Je cite, nous roulons vite, nous y allons à fond à chaque étape. Je comprends que les gens se questionnent à cause du passé. Ils s'en inquiètent et c'est quelque chose que je peux complètement comprendre. »
Et il faut aussi reconnaître que la Slovénie a une réputation sulfureuse, hein, Valentine.
Oui, alors d'après une étude du journal Le Monde entre 2009 et 2019, 8 des 19 coureurs slovènes évoluant dans le World Tour ont été suspendus pour dopage. Cela correspond quand même à 42% d'entre eux. C'est un chiffre assez extraordinaire. Je rappelle pour vous donner un peu de contexte que la Slovénie, c'est 2 millions d'habitants sur un territoire grand comme la Picardie. Compte tenu de sa taille, on peut s'étonner de voir émerger de si grands champions aussi rapidement. Avec Pogacar, je pense évidemment à Primož Roglič, et champion olympique du contre-la-montre en 2020. Maintenant, le talent, c'est le talent, et le dopage existe bien sûr dans d'autres pays. En ce moment, c'est la natation chinoise qui est au cœur d'un autre scandale. Révélé par le New York Times, 23 nageurs ont été contrôlés positifs en 2021. 13 ont quand même participé aux JO de Tokyo, certains remportant des médailles. Comment cela a-t-il été possible? Qui était au courant? Qui est intervenu? Quelle est l'implication de l'AMA, Agence mondiale antidopage? Les Américains et les Allemands ont annoncé lancer des enquêtes. À 3 mois des JO de Paris, ça l'affiche un peu mal.
Oui, mais voilà, reste que Pogacar est toujours en selle.
Plus que jamais, blanc comme neige à ce jour, on l'attend au départ du Tour d'Italie en mai. Et il participerait aussi au Tour de France, sachant qu'il fait aussi partie des 4 coureurs slovènes qui seront envoyés au JO de Paris. Alors côté salaire, il est marge à 6 millions d'euros annuels avec une clause libératoire fixée à 100 millions. C'est le coureur le mieux payé. Il est toutefois impliqué dans le secteur caritatif puisqu'il a créé sa propre fondation de recherche contre le cancer. Une belle action à saluer.
Merci beaucoup Valentine Saboureau.
La nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts.
Serveuse dans le diner à coups d'épaule motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. She
danse. MC Solar sur les ondes de SBS Audio avec le titre Il danse. On va vous parler d'une histoire française à présent, messieurs, dames. Un ustensile de cuisine très bleu-blanc-rouge qui trouve toute sa place dans les foyers australiens. Ce sont les Magimix. Christophe Mallet a rencontré la directrice en Australie. Interview.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de gastronomie et peut-être un petit peu ce qui est en amont, justement, de la gastronomie avec Wivina Chanelière. Elle est la représentante d'une marque très connue dans les foyers français, c'est Magimix. Bonjour.
Bonjour, Christophe.
Alors, Magimix, voilà, sans faire l'éloge de la marque en elle-même, c'est vraiment une marque un peu historique. C'est quelque chose que, je sais pas, moi, ma maman avait des produits Magimix, ma grand-mère avait des produits Magimix. C'est une marque vraiment historique, en fait.
Oui, tout à fait. Magimix, c'est une belle marque française qui a en fait inventé le robot cuiseur depuis donc 1961 en Bourgogne. Donc c'est un boucher charcutier qui a inventé le premier robot multifonction, puisque en France, comme vous savez, les bouchers font aussi beaucoup de traiteurs, et donc pour préparer, couper, amincer, râper, trancher tous les légumes, il a inventé le premier robot multifonction. Donc ça fait depuis 1961 que effectivement beaucoup de ménages ont du Magimix à la maison, et en fait une de leurs spécificités, c'est qu'ils ont créé un moteur asynchrone qui est fabriqué en Bourgogne, toujours dans la même usine à Monceau-les-Mines. Et ce moteur est un moteur commercial, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont une longévité incroyable et que souvent, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, même peut-être, ont un Magimix à la maison parce qu'en fait, le moteur est juste presque incroyable, en fait.
D'accord. Et ça, c'est quand vous parlez justement de cette notion de robot ménager, l'invention de ce robot ménager, est-ce qu'on peut évaluer l'impact que ça a eu justement dans la cuisine de tous les jours pour monsieur et madame tout le monde?
Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de... Bien sûr, le Magimix est destiné pour les ménages. Surtout, malheureusement, ce sont surtout des femmes qui utilisent aujourd'hui les robots multifonctions. Mais effectivement, il y a beaucoup de chefs aussi qui s'en servent à la maison. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de l'utiliser en principe dans leur cuisine commerciale, mais ils s'en servent à la maison parce qu'en fait, ils ont vraiment une réputation de performance. Tous les accessoires du robot sont fabriqués en France. Donc, par exemple, toutes les lames sont fabriquées à Thiers. Ce sont des lames Sabatier, donc qui sont très très reconnues en France. Donc il y a vraiment une qualité, une durabilité qui est au cœur de Magimix et donc a eu un impact énorme sur la préparation culinaire puisque c'était un peu en même temps que la révolution où les femmes commençaient à s'émanciper, à sortir de leur cuisine, à avoir des carrières. Etc. Et donc, en fait, ça, c'est pour ça que c'est vraiment arrivé au bon moment, en fait.
Vous dites les femmes, c'est pas du tout réducteur, c'est que vous savez que vos consommateurs sont quand même principalement des consommatrices.
Ah oui, à pratiquement 80-90%. Mais par contre, on voit on a une base de données avec tous nos consommateurs et 90%, ce sont les femmes. Donc, aujourd'hui encore, malheureusement, ce sont les femmes qui utilisent encore beaucoup les appareils ménagers. Mais bien sûr, il y a beaucoup de chefs hommes qui s'en servent à la maison. Mais c'est malheureusement encore les femmes qui préparent encore. La plupart du temps, les repas.
D'accord. Si on parle justement du marché depuis longtemps, on parle du côté historique de cela. C'est vrai que depuis quelques années, peut-être une décennie, il y a eu un concurrent vraiment sur le marché qui est presque devenu une terminologie en elle-même. Comment la marque réagit? Comment Magimix réagit par rapport à tout ça? Thermomix, pour pas le nommer.
Oui. Alors Thermomix, eux, ils ont inventé le robot cuiseur. Donc ça, c'est effectivement c'est c'est pas tout à fait la même chose que le robot multifonction. La différence étant que le robot cuiseur a un bol en inox qui permet de faire plein de cuissons différentes. Donc eux, ils l'ont inventé. C'est une marque allemande. En fait, ce que Magimix a fait, c'est qu'en 2015, Magimix a lancé leur version du robot cuiseur qui s'appelle le Magimix Cook Expert. Et qui donc a des avantages différents au Thermomix. Le Thermomix, c'est une machine incroyable. Hein. Il remplace tous les appareils dans la cuisine. Magimix a juste créé sa propre version. Ils sont très très bien implantés. Magimix, c'est une marque évidemment énorme en France. En Australie, c'est pas encore le cas puisque nous avons créé notre filiale il y a juste 3 ans. Alors que Thermomix en Australie, ils ont créé leur filiale il y a plus de 20 ans. Donc il y a une notoriété de la marque qui n'est pas encore telle que celle de Thermomix, mais une fois qu'on arrivera à cette notoriété, comme en France, il se vend pratiquement autant de Magimix que de Thermomix.
Et ça, le poids de l'histoire est important là-dedans, dans cette histoire en France, cette histoire qui, voilà, on parlait des grand-mères, des arrière-grand-mères, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important, qui résonne aux mêmes oreilles que les Australiens ou pas vraiment?
Oui, parce qu'en fait, Magimix a commencé avec un distributeur en Australie, donc en 1975. Donc, y a beaucoup de consommateurs qui ont des robots donc depuis presque ça fait donc 48 ans. Nous avons chaque semaine notre service consommatrice est basé à Sydney et nous avons régulièrement des appels 2-3 personnes par semaine qui nous appellent en disant j'ai une machine qui a plus de 40 ans, j'aimerais juste avoir un nouveau bol, mais la machine, le moteur marche toujours. Donc il y a vraiment un héritage, il y a une loyauté à la marque Magimix par les consommateurs qui connaissent voilà la qualité, la durabilité Magimix.
Et ça, c'est alors sur le côté made in France, en tout cas sur l'histoire et cette histoire culinaire. On pense à d'autres marques comme Moulinex ou d'autres marques comme ça. Il y a un emblème, il y a un savoir-faire français par rapport à ça.
Ah oui, non, il y a enfin la France est réputée à beaucoup de belles marques dans tout ce qui est petit électroménager et également tout ce qui est art de la table, et le consommateur australien apprécie le made in France et donc effectivement il y a beaucoup de marques françaises qui ont très très bien marché et qui marchent très très bien en Australie. Tout dépend du moment où ils ont commencé à faire à développer la notoriété de la marque. Donc par exemple, si je prends une marque comme Le Creuset, ça fait déjà beaucoup d'années qu'ils font la promotion de leur marque en Australie. Ils ont une notoriété vraiment très forte. Nous, la seule différence avec Magimix, c'est qu'nous avons commencé la filiale seulement depuis 3 ans, et donc on n'a pas encore une notoriété telle que effectivement d'autres marques françaises dans le petit électroménager comme Tefal ou Moulinex ou Le Creuset.
Et Le Creuset, justement, c'est un exemple pour vous, un exemple de la façon dont ils ont pénétré le marché, la façon dont ils ont géré cette touche à la française avec bon, il y a bien sûr les petits drapeaux, mais forcément, ça appelle à quelque chose, un Creuset, notamment la tradition.
Oui, oui, oui. Quand on voit le succès de Le Creuset en Australie, nous, c'est la même. C'est une inspiration pour nous. On sait qu'on peut y arriver, puisque il y a vraiment une appréciation des marques françaises, parce qu'il y a la qualité, la performance, et puis il y a aussi l'histoire qui est derrière chacune de ces marques. Donc, et les Australiens apprécient énormément, évidemment, la gastronomie française, et savent que toutes ces marques prestigieuses françaises sont vraiment, enfin, délivrent vraiment sur la performance et la qualité.
Il y a une petite touche à toucher au drapeau français, c'est ça?
Ah oui, oui, la marque France en Australie, dans le domaine du petit électroménager et tout ce qui est les casseroles et le cookware est vraiment a une très très bonne réputation.
Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous parler. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio SBS.
Merci beaucoup, Christophe. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Sous la peau comme une enclume, parfois. On me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi l'autre, car je suis lune et soleil.
L'une ou l'autre de Zaz, messieurs, dames. Si vous avez écouté notre émission hier, alors vous vous êtes déjà plongé dans les archives de SBS French à l'écoute de Gérard Jugnot, invité en 2002 pour présenter le film Monsieur Batignol. Voilà la deuxième partie de cette interview réalisée à l'époque par Daniel Kampf, il y a 22 ans donc. L'interview dans son intégralité est à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
ce Français moyen, cette personne qui n'a jamais pensé pour lui-même, qui d'ailleurs ne veut pas penser pour lui-même parce qu'il ne veut pas de problème, et qui se retrouve avec le destin lui fait signe, et puis comme c'est quand même quelqu'un qui voit la vie d'une façon qui est très positive dans son petit cercle à lui, quand il dit bonjour à ses lapins, il dit bien dormi les civets. J'ai trouvé ça adorable comme phrase, bien dormi les civets. On voit que c'est quelqu'un qui est la bonne humeur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et puis qui travaille du matin jusqu'au soir de toute façon, donc il n'a pas vraiment...
C'est des gens... Moi j'avais un grand-père qui était boucher pendant la guerre.
Il ne faisait que ça, il ne travaillait sans arrêt.
C'est ça, oui, c'est ça qui m'a moi, donné l'idée, parce que j'adorais ce grand-père maternel, et j'ai appris qu'en 48 il avait fait faillite. Donc je me suis dit, tiens, s'il a fait faillite, c'est qu'il n'a pas dû faire beaucoup de marchés noirs, et je l'ai trouvé très, du coup encore plus sympathique, et je me suis un petit peu... servi de cette enveloppe charnelle pour créer ce personnage. Un personnage comme ça, le bon sens populaire, avec tout ce que ça a de négatif, hein, et en même temps, un sens que j'aime moi un petit peu, puisque j'ai eu par éducation, de il est midi, on mange, il est 7 heures, on mange, on dort, on se repose, enfin, des choses comme ça, bécasses, mais qui sont finalement pas forcément...
La structure de la vie aussi, la texture de la vie de tous les jours, des petites gens... finalement, parce que de ceux qui ne font pas l'histoire, mais qui doivent s'adapter Absolument. Aux circonstances.
Et je pense que, si vous voulez, j'en connais peu des grands héros. D'ailleurs, quand vous commencez à côtoyer les grands héros, vous apercevez que tout ça n'est pas si simple que ça.
Non.
Jean Moulin est très très complexe par rapport à des, c'était un homme politique plus qu'un héros. C'est un grand manipulateur et un réunificateur de l'armée secrète. Mais les petits héros, c'était... Avec toutes ces ambiguïtés, moi, si vous voulez, quand j'ai travaillé sur ce sujet, je suis allé dans le Jura et on m'a raconté une histoire que Gilles Perrault avait interviewé une femme qui avait un petit chalet près de la frontière suisse. Et elle avait fait passer des foultitudes de gens, de familles, la plupart juives. Et donc, il l'interviewe, elle avait 85 ans. Il dit, alors, vous êtes un héros. Oh, arrêtez de m'emmerder avec ça. J'ai fait ça, il fallait que je le fasse. Mais pourquoi? Il y avait 2000 personnes qui sont venues, j'ai fait passer 2000 familles, ils étaient dans la neige, il y avait froid, moi j'étais près de la frontière, je pouvais faire ça, mais c'était très dangereux, on aurait pu vous dénoncer, mais oui, bien sûr, et c'était des juifs, oui, la plupart c'était des juifs, et elle termine l'interview en disant, oui, mais vous savez, je les aimais pas beaucoup ces gens-là.
Incroyable.
C'est incroyable. Et je trouve que la vie, elle est là, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de terrible, cette femme qui sans doute qui a fait des choses beaucoup plus héroïques que peut-être même Jean Moulin.
Oui.
Et avec des idées moins belles. Et en même temps, moi c'est ça que j'ai dit souvent, c'est qu'on peut dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir au fond de soi, je déteste les j'aime pas les rouquins, j'aime pas les blonds, j'aime pas les bruns. De là à le dire fort et à les mettre dans des camps, il y a quand même un grand pas qu'il faut pas faire.
Mais c'est incroyable cette histoire, c'est vraiment incroyable. C'est là où on revient à Cocteau, je crois que c'était dans Les Parents Terribles, où il dit ne fouille pas trop le cœur des gens.
Oui, mais surtout, oui, en plus, c'est Cocteau, même par rapport à la guerre.
Oh oui.
C'est pour ça que j'ai mis la scène de Aix-à-Chaï.
Oh, j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil.
Parce que je trouve que Sacha Guitry, bon, a payé beaucoup, hein, il a payé très fort le fait de continuer à exister pendant la guerre. Mais par exemple, Cocteau, qui lui était très mouillé, on n'a rien dit. Il y a eu beaucoup de gens. Et Jean-Paul Sartre a débuté très très calmement sa vie artistique pendant la guerre sans rien faire. Donc
oui.
Tout ça, il y a des petites injustices. Mais c'est souvent des injustices sur les comiques.
Oui, mais oui, parce que ce sont les plus dangereux, parce que ce sont eux qui sont les détracteurs. Et d'ailleurs, ce clin d'œil est aussi un petit sourire en coin. Quand ce petit minable lui dit « Mais vous m'insultez, monsieur », il dit « Oui, mais je n'en fais pas mon gagne-pain ».
Oui, heureusement, la critique n'a pas compris.
D'accord. Gérard Jugnot, il y a des moments de tendresse extraordinaires. Quand il amène à ce petit garçon qui est assez difficile, qui demande des choses, qui est pourtant dans une situation impossible, qu'il a les nazis dans son salon, qu'il a ce gamin qui est malade et qui est dans la chambre de bonne, il lui emmène ses soldats de plomb qui étaient à lui quand il était petit. Parce qu'il se rend compte que l'enfant n'a plus de livres, n'a plus d'instruments, n'a plus rien. Il est tout seul, il a tout perdu.
Ouais, je trouve ça joli, quoi, parce que lui, il n'a pas de livres. Il le dit d'ailleurs, les seuls livres...
Je travaille du matin jusqu'au soir.
Et il lit pas, mais il sait quand même que cet enfant est un enfant et qu'il faut savoir jouer, qu'il faut savoir l'occuper. Et moi, j'avais cette complicité avec mon grand-père, qui était quelqu'un qui lisait pas, mais qui me fabriquait ses jouets. Je me souviens, ce vieux bonhomme que j'adorais, qu'il n'avait pas de sous parce qu'il avait été parti en retraite à 45 ans, 50 ans. Et donc, il n'avait pas de retraite, donc il tirait un peu le diable à la queue et j'allais chez lui en vacances. Et à Noël, je voyais cet homme totalement effondré parce que il n'avait pas de quoi nous offrir des beaux jouets qu'on aurait pu acheter au Galeries Lafayette. Donc, mais il fabriquait lui-même des jouets pour nous. Il nous fabriquait un château fort, une ferme. Il était très bricoleur, il les peignait. S'il pouvait savoir à quel point ces jouets nous touchaient, même si sur le moment on aurait préféré un jouet Fisher-Price ou une saloperie en plastique. Mais moi je sais que maintenant c'était peut-être gardé, je sais pas où ils sont, mais c'est ceux-là que j'ai gardé, c'est ceux-là que j'aimais. Oui. Et je voyais, j'étais trop jeune pour lui dire, mais au contraire c'est ça, c'est mieux. Et je voyais cette petite tristesse parce qu'il n'avait pas l'argent pour faire, alors qu'il avait plus de cœur. En travaillant pendant 8 jours pour faire une petite ferme, alors que s'il avait été dans un magasin, il aurait fait un chèque et il nous aurait offert une merde en plastique qu'on aurait cassé 3 jours après.
Et il donnait dans la durée aussi.
Absolument. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, profondément marqué. Quoi.
Et c'est magnifique quand on peut avoir un mentor de cœur qui soit justement un homme de bien ou une femme de
Absolument.
Bien.
Alors je ne sais pas s'il a été un homme de bien. Je ne sais pas si.
Et vis-à-vis de vous,
ils ont été déjà vis-à-vis de moi, il était un homme de bien. Et c'est vrai que cette histoire que je raconte, on m'a dit ah c'est l'histoire de grand-père. Je dis non, je me suis servi de ça. Et c'est un petit peu comme si moi j'avais fantasmé sur ces gens, sur ces Français ordinaires dont je viens. C'est un peu aussi la mise en abîme de ma vie. Moi je suis un petit bonhomme ordinaire. Je vois ma tête sur des affiches énormes. Ça me fait bizarre. Mais c'est la même chose, parce que c'est le fantasme sur... Attention, les gens ordinaires peuvent être des gens bien aussi, oui. Des gens exceptionnels, et qu'il y a peut-être plus d'héroïsme chez un pompier de New York que chez Bruce Willis.
Tout à fait d'accord avec vous. Ils ont prouvé leur héroïsme. Ils l'ont payé très cher, eux aussi, leur héroïsme.
Mais c'est vrai aussi que c'est aussi toute l'ambiguïté de ce métier. Moi, je fais des films. Quand je fais des films comme étant en scène, je ne suis que acteur. Donc, si je joue un héros, c'est pas moi le héros, c'est le personnage que j'interprète. Et les acteurs ont malheureusement souvent le défaut de croire ce qu'ils jouent. C'est une grave erreur.
Surtout quand il y a une énorme machine publicitaire qui continue à perpétuer.
Même sur une petite scène de théâtre en banlieue, vous pouvez croire. Donc, vous jouez un héros. Moi, j'ai joué, par exemple, cette année, j'ai joué Sainte-Beuve, qui était amoureuse d'Aden, une femme assez belle, même très belle, et tous les soirs, pendant 220 fois, elle avait les larmes aux yeux, elle me disait qu'elle m'aimait, après elle me jetait. Enfin, bon. Mais ça peut être un truc de fou. Hein.
Ah oui, parce que.
On vous paye pour monter sur une scène devant des gens qui vont vous applaudir, vous mettez un petit peu votre cœur à nu et il y a une fille très belle qui vous embrasse et qui vous dit qu'elle vous aime. Même si dans la loge, elle ne vous dit pas ça. C'est un truc de fou. Moi, je n'ai pas expérimenté ça. Pareil, Batignolles, c'est pas un héros. Batignolles, c'est un héros, mais pas Gérard Jugnot.
Mais vous l'incarnez quand même très bien, Gérard Jugnot.
Pas moi.
Oui, mais alors, malgré tout, vous avez écrit le texte et vous avez réalisé le film.
Il y a une partie de moi, quand même.
Quand même. Mais... Écoutez, ce que j'adore, je vais vous parler un petit peu des moments que j'ai trouvés particulièrement privilégiés. Quand il parle à ce petit garçon, il lui dit « Imagine si tout le monde se disait la vérité, Simon, ça serait la guerre. » Et le petit gamin qui dit « Mais c'est la guerre. Mm-hmm. » C'est là où il y a cet enfant qui devient le mentor de l'homme. Il est d'une logique implacable à cet enfant.
Oui, ce qui nous intéressait, nous, c'est quand il dit, quand l'autre dit, mais je sais ce qu'ils vont faire, ils vont vous emmener, c'est pour faire des routes.
Voilà, casser des cailloux.
Et pour casser des petits cailloux avec des marteaux et tout. Et l'autre dit, et les enfants, ils auront des petits cailloux. Et moi, enfin, le personnage dit, oui, avec des petits marteaux. Et là, d'un seul coup, on avait écrit une scène, enfin, une réplique où le petit disait, c'est des bêtises, je l'ai pas fait dire au môme, parce que c'était tellement clair que c'était une connerie, que le regard de l'enfant, qui est un acteur formidable, le petit Simon, là, le petit Jules Citruc,
oui.
D'un seul coup, rajoutait, enfin, c'était terrible. Et par exemple, il y a des choses comme ça, moi j'adore les regards. Bon, là, on est au téléphone, c'est plus gênant, mais si vous voulez, quand il pique-nique et que...
L'air pur.
Batignolles dit, moi j'ai fait 14-18, c'était important de parler de 14-18, ça a beaucoup marqué les Français de cet âge-là. Moi, je me suis... c'est quand on fait des films, l'avantage, c'est quand on se remet totalement en situation, on essaye des costumes, on se dit, moi j'ai 50 piges en 1940, ça veut dire que j'avais 30 ans en 14 et que donc j'étais dans les tranchées. Vous vous rendez compte, 20 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Et donc, d'un seul coup, on touche du doigt, justement par ce phénomène de projection empathique, de dire, merde, ça devait être ça. Et c'est facile de juger maintenant en disant, mais comment ça se fait qu'ils ont perdu la guerre, comment ça se fait, c'est fou, quoi. Et donc, quand il parle de ça, il dit, vous connaissez pas votre bonheur, excusez-moi.
Bon, et l'expression des enfants est magnifique.
Et ça c'est une phrase qu'on avait écrite comme ça. En la jouant, je me suis dit, ben non, ils peuvent pas, il faut absolument, c'est absolument obligatoire qu'il y ait des réactions des enfants là-dessus. Donc on a fait des silences et j'ai monté des regards des enfants et je trouve ça d'un seul coup.
C'est magnifique.
C'est à chaque fois comment les enfants lui font toucher du doigt la réalité et que c'est les enfants qui sont finalement le père de l'homme, ou en tout cas qui sont les professeurs qui apprennent à Batignolles la vie qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer. Parce que moi, j'aime beaucoup que les films permettent aux héros de d'évoluer, même si dans la vie, c'est pas toujours le cas.
Mais en même temps, dans le cas de ces enfants, ils ont été obligés de devenir adultes très vite parce qu'ils ont été Absolument. Séparés. Et c'est à eux qu'ils retournent. Ils retournent à l'adulte qui, lui, est resté quand même très, très naïf et enfantin.
Et absolument, c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer que malgré tout ce qui leur arrivait, on aurait pu le faire pleurer plus souvent. Je le fais pleurer qu'une fois. Ce qui était marrant, c'est qu'avec les enfants, même avec le fils de la ferme, ce qui était rigolo, intéressant, c'est que la vie va mal parce que les adultes se comportent comme des enfants, comme
batignolles, oui.
Et que ça redéconne quand les enfants se prennent pour des adultes. Dans la fin, avec la ferme, le moment où on pense que tout va bien, tout remerde à cause de cette espèce de truc où il joue à la guerre, il y a de la jalousie de l'enfant par rapport à sa mère, à la fermière. C'est ça qui m'intéressait. C'est ce renversement qui m'intéressait.
Mais il y a aussi ce moment magnifique quand il voit le prêtre. Il dit, c'est lui le passeur. Il dit, qu'est-ce que tu attendais, un rabbin?
Je pense qu'il faut aussi, sans manquer de respect, il faut débroussailler un petit peu ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez remarqué que le môme est un enfant gâté, que le père était un peu puant, le père.
Oui.
C'est pas de l'antisémitisme que de dire qu'un grand bourgeois peut être méprisant par rapport à un petit commerçant. Il se trouve que là, il est juif, mais les mêmes rapports. C'est ça qui, moi, m'intéressait, c'était de montrer certaines vérités. Pourquoi se priver de vannes ou de blagues ou de trucs qu'on peut se dire, et qui est amusant, je trouve que c'est ça qui donne la vie.
Mais alors, j'ai pensé aussi au moment que dit, vous étiez très fier en quelque sorte, il dit ça au père, mais en même temps, je pensais que étant traiteur, naturellement, il traitait du porc principalement.
Bien sûr. C'est pour ça que l'autre n'est jamais dans sa boutique.
Mais voilà, c'était une des raisons primordiales quand même. Mais
c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui était intéressant, c'est de faire un charcutier qui travaille que dans le porc. Se confronter à ce petit garçon et qui ne mange pas de porc et qui est cachère. Donc ça, c'était assez rigolo, quoi, avec le cauchemar du porc et je ne suis un porc, enfin toute la symbolique
oui.
de la charcuterie.
Mais en même temps, quand ils découvrent les gamines qui rejoignent leurs cousins et puis disent, mais c'est pas une colonie de vacances. C'est à l'opposé de ce que ça pourrait être.
C'est là où la comédie est forte, c'est qu'elle fait passer les choses d'une manière plus simple
oui.
et en même temps d'une manière plus vraie. Quoi. C'est vrai que,
parce que tout le monde le dit à un certain moment.
On a parfois, je veux dire, dans un enterrement, on a des fous rires.
Ah oui, oh là là, ou à l'église.
On peut avoir, je ne sais pas, un problème intestinal.
Oui.
Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous marier et avoir des gaz. Excusez-moi, c'est vulgaire. Je ne ferai jamais ça.
Absolument.
Mais c'est ça qui est amusant, quoi. Ce qui est amusant, c'est... Parce que c'est marrant dans la vie, c'est ça, c'est que d'un seul coup, vous êtes en train d'embrasser la plus belle femme du monde et vous avez envie d'éternuer. Et ça, c'est l'humain.
C'est l'humain. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est quand il rouspète contre ce gamin qui est quand même assez difficile et il lui dit « Mais tu moulines, on dirait ma femme !»
Oui, même l'héroïsme final quand il décide de partir avec les enfants et qu'il trouve ce truc très joli, je trouve, de côté tout parler pas le suisse.
Oui,
il commence à faire croire. Moi, j'aime beaucoup les gens qui prétendent faire. Oui. Ça me touche beaucoup, moi. Et il part, mais aussi bien il part parce qu'il veut peut-être pas retrouver sa femme.
Oui.
Cet héroïsme-là, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de héros qui sont partis parce que...
Ils voulaient s'en aller, ils voulaient quitter la...
chez eux, parce qu'ils avaient plein de cul de bobonne ou des enfants, tout ça. Hein. Je crois que c'est pas toujours aussi simple. Regardez, Jean Gabin, il a quitté la France. On dit que un grand héros pour se battre dans l'armée française, mais ils sont tous suivis Marlène Dietrich.
Hein, il faut le rappeler. Il faut le rappeler.
Non, mais après, il est devenu un grand héros. Mais enfin, faut pas déconner. Tout ça, c'est comme ça. Dans la vie, c'est pareil. Combien de héros se sont engagés dans l'armée secrète parce qu'il y avait une belle gonzesse qui voulait pâter. Donc ça, c'est plutôt. Moi, c'est ça qui m'amuse. Moi, dans la vie, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des tas d'aspects assez étranges.
Oui, et vous savez, je pensais à ça principalement parce que quand on voit, par exemple, le nombre de jeunes Australiens qui créent un pays en Première Guerre mondiale, dont le nombre était vital pour que le pays se mette en marche, et qui se sont engagés et qui ne sont pas revenus. Mais en même temps, la vie à la ferme ne devait pas être facile non plus.
Absolument.
C'est exactement ce à quoi vous référez.
Mais... Moi j'ai fait mon service militaire, je suis un des rares de ma génération. J'ai vu des paysans pleurer parce qu'ils étaient réformés.
Ah bon?
Parce que pour eux,
ils s'échappaient.
C'était une échappée formidable parce qu'ils pouvaient dans ce cas-là ne pas travailler au champ parce qu'ils travaillaient 18 heures par jour Et surtout, ils ne se marieraient jamais parce qu'ils étaient considérés comme des lavettes ou des homosexuels ou des... Enfin, je sais pas, des choses... C'est assez étonnant, ça.
Moi, c'est fascinant.
Je traque beaucoup le paradoxe, le petit détail qui tue, que j'aime, moi.
Ben, Gérard Junot, il y a un autre paradoxe. C'est ce petit garçon, ce petit bout de chou qui parle plusieurs langues. Et à travers les questions, vous vous rendez compte que le père du petit garçon et vous-même, vous étiez dans les camps opposés. Et que peut-être que c'est le père du garçon qui vous a lancé le morceau de shrapnel que vous avez dans la cuisse. Non, c'est extraordinaire parce que effectivement les juifs allemands étaient allemands d'abord, pendant la Première Guerre mondiale.
Et surtout, c'était important, là c'était important qu'ils soient bilingues parce que dans la réalité historique, la rafle du Veldiv, c'était les étrangers, les juifs étrangers. Il y a eu pratiquement pas de juifs français qui ont été embarqués. Donc on ne pouvait pas dire qu'il était français, donc c'est pour ça qu'on l'a fait allemand de nationalité.
Et cet enfant se débrouille très très bien, ses petites cousines aussi sont adorables. Et puis il y a ce portrait de femme, ce magnifique portrait de femme, qui est cette fermière, qui est d'une sérénité incroyable. Gérard Junot, un dernier message sur ce magnifique film Monsieur Batignol.
Je peux dire une chose par rapport à la comédie dramatique, c'est que le cinéma n'a jamais changé le monde, mais le cinéma peut donner de la force aux gens qui veulent le changer. Voilà ce que je peux dire. Et puis bonjour à l'Australie. Moi, je
bien
à mes cigales.
Retournez à vos cigales et merci encore Gérard Junot.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre de ce qui...
Un homme extraordinaire, Les Innocents. On marque une très courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour notre podcast Watson SBS On Demand. SBS On Demand, c'est la plateforme de streaming de SBS, du contenu gratuit dans toutes les langues et pour tous les goûts. Et nous vous avons fait la sélection francophone du mois d'avril. C'est parti.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Watson, SBS On Demand. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pour cela que nous avons créé ce podcast dont c'est déjà le 6e épisode. Watson SBS On Demand, c'est votre rendez-vous mensuel pour savoir exactement quelles sont les sorties françaises sur SBS On Demand. Cinéma, séries, doublage, ne ratez aucune information grâce à notre nouveau podcast à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Alors, que vous réserve le mois d'avril ? C'est parti ! On commence avec la saison 1 du thriller d'Argent et de Sang, une série en 12 épisodes inspirée du livre éponyme écrit par le journaliste Fabrice Arfi. L'histoire de l'arnaque du siècle, une affaire dans laquelle un trio composé de deux escrocs de Belleville et un trader des beaux quartiers sont parvenus à monter une gigantesque fraude à la TVA sur les quotas carbone. Mais leurs manigances ont rapidement attiré l'attention d'un magistrat des douanes très pugnace. On retrouve au casting Ramzi Bedia, David Alaya, Neil Schneider et Vincent Lindon dans le rôle de l'enquêteur professionnel.
1000 milliards de dollars, c'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque.
parlait en Fitoussi.
À Belleville, tout le monde l'appelait Fitous l'élégant. Mais c'est surtout Fitous le menteur. Jérôme Mathias.
Je sais qu'il a une boîte de trading.
Je mange un chèque.
Pas de forêt des Tunisiens. Ils vont te dépouiller, ces types.
Qu'est-ce que vous entendez par borderline?
Ils ont mis la TVA sur les quotas carbone. Ils vont détourner la TVA demain.
Quoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? Pas de l'or, de la cocaïne.
C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs? Des gangsters?
2 milliards de fraudes en moins de 3 mois.
Je m'amuse. Elles sont où, ces preuves? Pourquoi on les a pas?
Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul.
D'argent et de sang, ou en anglais « Of Money and Blood », si cette série s'apparente à une fiction à suspense, elle se base cependant sur une histoire vraie, ce qui rend son visionnage plus passionnant encore. Deuxième programme francophone dont on voulait vous parler, c'est le documentaire « Allô, voici mon pénis »,« Hi, this is my penis » en anglais, une enquête sympathique mais essentielle de Kim Levesque-Lizotte sur pourquoi les hommes envoient des photos de leur pénis. C'est donc au phénomène plus connu en anglais sous le nom de Dick Pics que s'intéresse ce documentaire unique de 45 minutes sorti en 2021, un film nécessaire sur un fléau contemporain. Et enfin, le mois d'avril est aussi l'occasion de découvrir la mini-série britannique Rebuilding Notre-Dame avec Lucy Worsley. C'est en anglais, il y a une seule saison, mais ça se passe à Paris, bien évidemment, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et le programme mène une enquête médico-légale pour comprendre comment le terrible incendie de Notre-Dame a commencé, pourquoi il s'est propagé si rapidement et ce qui est fait pour préserver ce bâtiment emblématique. Du côté des films francophones, une large sélection en ce mois d'avril 2024. Tout d'abord, Illusion perdue de Xavier Giannoli avec Cécile de France et Benjamin Voisin. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte donc l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Mais le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend. La littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, il va survivre à ses illusions.
J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
Il nous vient d'Angoulême.
Lucien de Rubempré, pour vous servir.
Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Folie de partir ensemble.
Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez?
Tous ces magouilles sont du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça.
Tout est pourri partout, tu trouves pas? Il faut se battre pour faire des belles choses.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Il nous a trahis, Fumier. Il faut l'abattre. Il faut taper là où ça fait mal.
Trop tard pour avoir peur.
Voilà pour Illusion perdue. Accessible gratuitement également le film Que le diable nous emporte ou alors Tempting Devils. Camille, quarantenaire, ramasse le téléphone de Suzy et Suzy ensuite appelle son propre numéro. Elles conviennent ensemble d'un rendez-vous chez Camille pour que Suzy récupère son téléphone. Et pendant cette rencontre, elle fait la connaissance de Clara, la compagne de Camille. Elles sont interrompues par Fabrice, l'amant éconduit de Suzy, ivre qui essaye de la ramener à lui. Pendant que Clara emmène Suzy se cacher dans un appartement au-dessus du leur, là où loge déjà l'étrange tonton, vieux sage et pris de yoga, Camille tâche de calmer Fabrice et peu à peu le console. C'est dès lors un étrange chasse et croisée qui commence. Camille noue une histoire passionnée avec Fabrice, tandis que tonton initie Suzy à la méditation et à la lévitation. Et peu à peu, chacun trouve sa propre voie vers le bonheur, sa propre place dans le jeu des sentiments. Quand le diable nous emporte, ou Tempting Devils en anglais, c'est un film de Jean-Claude Brissot, disponible gratuitement sur SBS On Demand. Retrouvez également 1500 impurs, connu sous le nom de The Breitner Commando en anglais, et sorti en 2020. Il faut imaginer 1960, une Algérie en guerre, et un soldat, déjà totalement marqué et traumatisé par l'Indochine, à la recherche de son ancien officier supérieur, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des rebelles.
Je veux que vous alliez dans les Aurès Nemencha et que vous trouviez le corps du colonel Simon de Limière. Dans moins de 6 jours, le napalm aura tout brûlé.
Si au cours de cette mission tu t'avises de désobéir à un seul de mes ordres, je te tuerai sur place.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son pays?
Il est arrivé quoi à l'arabe là-bas? Tentative d'évasion?
Pire. Refus de s'intégrer à la chorale.
Est-ce que vous savez encore ce que c'est la miséricorde, mon colonel?
Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer.
Non, je vais vous montrer de quoi je suis capable quand je mets mon cœur de côté.
Voilà la terrible bande-annonce de 1500 impurs ou The Breitner Commando, sorti en 2020. Une comédie et deux films d'animation viennent compléter notre sélection mensuelle. Les Amours d'Anaïs par Charline Bourgeois-Taquet avec Anaïs Desmoustiers. Ça s'appelle Anaïs in Love en anglais et c'est l'histoire d'Anaïs, donc 30 ans, pas assez d'argent. Elle a un amoureux qu'elle n'est pas vraiment sûre d'aimer. Elle rencontre Daniel qui lui plaît, mais Daniel vit avec Émilie qui lui plaît aussi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'agite, c'est aussi l'histoire d'un grand désir.
On a pas la peine de courir, on l'a raté. Tu me vois quand t'as le temps, tu me cases, t'avances comme un bulldozer.
Oui, je sais, je suis un gros tracteur, tu me l'as déjà dit.
Bonsoir.
Daniel Moreau-Babin.
Anaïs. En fait, je vais vous retrouver là-haut, ça vous dérange pas? C'est Émilie?
Oui.
Bonjour, vous êtes Émilie Ducret?
Oui.
Tu la trompes souvent, Émilie?
La trompe pas, tu me crois pas?
Ben non.
Je suis en train de lire un de vos livres, je l'ai pas encore fini, mais j'adore. Enfin, j'ai l'impression qu'on a des sensibilités très proches.
Pardon, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur, justement.
Oui, bien sûr.
Bonjour, je suis Anaïs.
Ah oui, Anaïs.
Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir. D'accord.
Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains.
Putain, mais qu'est-ce que tu racontes?
J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie. Vous voulez pas qu'on se promène?
Vous écrivez sur quoi?
Vous êtes indiscrète.
Daniel? On peut savoir ce que tu fais là?
J'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme.
Ma femme? C'est quoi ce sentiment de propriété inadmissible? Elle est pas à toi, Émilie. Hein. Vous êtes même pas mariée en plus.
Non mais on est vraiment chez les dingues.
Vous êtes qui, Anaïs?
Les Amours d'Anaïs sur SBS On Demand. On vous le disait, il y a aussi deux films d'animation, Le Grand Méchant Renard et Autres Contes ou The Big Bad Fox and Other Tales, qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur film d'animation, donc on vous le conseille vraiment, et Tales of the Night ou Les Contes de la Nuit en français, 6 fables exotiques du Tibet à l'Europe médiévale, tout droit sorti de l'imaginaire de Michel Oslo, auteur du très célèbre Kirikou et Azur et Asmar.
Je me demande s'il n'y aurait pas une jolie princesse.
Oh oui ! Faisons une vraie féerie. Je suis à vous corps et âme.
Et ce soir, nous irons tous les deux nous promener au clair de lune.
Non ! Je renonce à ta voix !
Vite !
Mais ton freluquet d'amoureux ne t'aura pas non plus !
Vite ! C'est une galerie secrète.
Je vais escalader cette forteresse !
Zacharia, le sorcier, va vous tuer !
Loup, sorcier, qui es-tu ? Je crois rêver. Mon prince.
Un enchantement, une féerie, un film de près d'1h30 durant lequel tout est possible. Deux autres films francophones à retrouver sur la plateforme ce mois-ci, Buried de Françoise Long, ou alors Enterré en français, l'histoire de quatre amis d'enfance qui se revoient pour la première fois depuis plusieurs années et qui se livrent à un jeu qui va, sans qu'ils ne s'y attendent, faire ressurgir d'anciens démons. Il y a aussi Xalé, un film dramatique ivoiro-sénégalais réalisé par Moussa Sanapsa et sorti en 2022. Il s'agit du troisième et dernier volet d'une trilogie débutant avec Tableau Ferraille, sorti en 1997, et Madame Brouette, 2004. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties séries et cinéma du mois d'avril sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles sur la plateforme gratuite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand, et ce, encore pendant plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames, on se retrouve le mois prochain, en mai 2024, pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt. Voilà, messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette émission. Une heure passée ensemble, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent dimanche après-midi. Et votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est mardi 13h sur SBS1 avec Grégory Pless. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.